des deux orphelines, sixième partie, chapitre 6. La jonction entre les garçons de la Montagne Verte et les Français s'opéra aux mille cris d'enthousiasme que poussaient à la fois et les sauveurs et les sauvés. Quand le chevalier de Vaudrey et Rabusson arrivèrent à leur tour, déjà les Sioux, fuyant de toutes parts, s'enfonçaient dans les hautes herbes des savanes. Le chef qui commandait les volontaires de Vermont savait à quoi s'en tenir sur cette retraite précipitée, car s'approchant du chevalier, il lui dit en français « Commandant, vos hommes viennent d'être excessivement éprouvés. Il y aurait humanité, je le reconnais, à leur laisser prendre un repos si nécessaire après les fatigues subies. Mais je ne dois pas vous cacher non plus que bien que mes boys aient accompli des marches longues et pénibles pour venir au-devant de vous, je ne consentirai pas à leur donner le temps de se reposer. » Le chevalier répondit « Vous avez, monsieur, toute qualité pour parler ainsi que vous venez de le faire. Certes, en toute autre circonstance, je croirais de mon devoir de permettre à ma petite troupe de se remettre des fatigues de toutes sortes qu'il lui a fallu supporter avant d'arriver ici. Mais je reconnais que vous avez une expérience du genre de guerre qui se fait ici, laquelle me manque absolument. Je me mets donc sous vos ordres. » « Je ne me reconnais d'autre droit, commandant, que de vous offrir quelques conseils, » répliqua l'officier montagnard. « Que je m'empresserai de suivre, monsieur, » fit Roger en s'inclinant. « En ce cas, commandant, nous allons, si vous le voulez bien, faire arrêter la poursuite, rallier nos hommes et nous remettre en marche immédiatement. » Et comme le chevalier de Vaudrey paraissait surpris de cette décision si prompte, l'officier des Boys ajouta « En même temps qu'un courrier de l'armée de Washington nous donnait l'ordre de nous joindre à vous, dans le but de coopérer à une importante diversion, un express de Lafayette me recommandait de la part du général de surveiller les marches et contre-marches des corps d'armée ennemis qui, d'après le rapport des éclaireurs, devaient évoluer dans les environs de nos montagnes. J'ai donc pris des mesures, continua l'interlocuteur du chevalier, afin de reconnaître les positions stratégiques occupées par les Anglais. Mes coureurs, lancés chaque jour en avant dans toutes les directions, m'ont constamment tenu au courant des marches de l'ennemi. Je sais aujourd'hui ce que médite le général anglais, et c'est pourquoi je me suis mis en marche afin de me porter au-devant de vous. De cette façon, je gagne deux bonnes journées, ce qui, j'en ai du moins l'espoir, nous permettra d'arriver à temps pour empêcher la jonction de deux gros corps d'armée qui, manœuvrant de concert, couperaient en deux l'armée de Washington et réussiraient à envelopper les deux ailes pour les battre séparément après avoir enfoncé le centre. » Et tout en parlant, le montagnard indiquait de la main les différentes positions qu'il affirmait être occupées par l'ennemi. « Votre but serait donc, interrompit le chevalier, de vous porter rapidement dans la plaine, de la traverser à marche forcée et de vous trouver prêt à surprendre au passage les troupes anglaises pendant les marches effectuées pour la jonction. » « Oui, tel est mon but, » répondit le chef des Boys de la Montagne Verte. Et il ajouta « Le succès de ce plan hardi, j'en conviens, est subordonné à la rapidité de notre marche. Il faut donc que rien ne puisse venir à l'improviste entraver ou simplement retarder cette marche. Voilà pourquoi, commandant, je suis heureux d'être arrivé à temps, non seulement pour dégager vos hommes, mais encore pour, avec l'aide des Français, mettre en fuite les Sioux d'abord et plus tard écraser les éclaireurs anglais. Je savais effectivement qu'un grand nombre d'Indiens, appelés par les Anglais, se dirigeaient à marche forcée sur Vermont. Leur objectif était la Montagne Verte, dont ils avaient reçu l'ordre d'occuper les défilés afin de nous empêcher de descendre dans la plaine. Vous avez pu vous rendre compte de la façon dont moi et mes hommes nous avons réussi à déjouer ces projets. « Oui, répondit le chevalier, en prenant par les sommets. C'était hardi et difficile à la fois. Tout est possible, commandant, avec les garçons de la Montagne Verte. Je les ai vus à l'œuvre. Vous les y verrez encore quand il s'agira de traverser cette immense savane sans s'arrêter ni pour manger ni pour dormir. La confiance en ses troupes est déjà pour un chef la moitié du succès. Aussi, pouvez-vous avoir confiance en ces intrépides soldats français que je viens de voir se battre comme des lions contre des hommes aguerris pour lesquels la mort sur le champ de bataille est un bonheur inappréciable et qu'ils ambitionnent par-dessus tout, en prévision des joies qui les attendent dans le paradis, où ils en sont convaincus règne le grand esprit. Avec des hommes comme ceux que vous conduisez au combat, commandant, on peut tout entreprendre, avec la certitude que pas une défaillance ne se manifestera dans leur rang. Nous allons donc nous mettre en route, monsieur, fit le chevalier de Vaudray. Et ainsi que je viens de vous le dire, je suivrai exactement, rigoureusement, les indications que vous jugerez à propos de me donner. Pendant que les deux chefs s'étaient entretenus, on avait sonné le ralliement et les montagnards n'avaient abandonné qu'à regret la poursuite des fuyards. La longue ligne noire des Sioux s'enfonça dans la plaine, disparaissant dans les hautes herbes. Quand toutes les troupes furent réunies pour la marche en avant dans la direction qu'indiquerait le chef montagnard, le chevalier de Vaudray s'aperçut tout à coup que son sauveur, le sergent Rabusson, avait disparu. « Où est le trappeur ? » demanda-t-il à Gaspard, qui revenait de la poursuite, tout noir de poudre, le visage animé, l'œil en feu. « Ah, celui-là ne répondra pas à l'appel de quelque temps, mon officier, » répondit le Parisien. « Que lui est-il donc arrivé ? S'il a continué à marcher depuis que nous l'avons perdu de vue, il doit être bien loin à cette heure. » « Mais du train dont il allait, et avec les moricauds qu'il avait devant lui, je ne donnerais pas bien cher de sa chevelure. » Et Gaspard fit le geste de scalper. Roger imposa doucement silence au jeune Parisien. Puis se tournant vers le chef des boys, « Je vous présente mon lieutenant, » dit-il, désignant Gaspard, qui ne s'attendait pas à cette promotion et demeurait tout confus de plaisir. « J'ai vu ce soldat à l'œuvre, » prononça le montagnard en serrant la main du nouveau lieutenant. « Le grade que vous lui conférez est la récompense méritée des services qu'il n'a cessé de rendre pendant cette longue marche et aussi de la valeur dont il vient de donner la preuve pendant ce dernier combat. Un véritable combat sans quartier, où il fallait lutter un contre cent. Je n'ai accompli que mon devoir, » fit Gaspard rouge de joie. « Et si j'ai tapé si fort et si longtemps, c'est que je gardais une fameuse dent à ces moricauds qu'il a fallu faire sauter comme des lapins, ce qui a failli vous coûter cher, mon commandant, à vous et à cet enragé trappeur. » À cette allusion au péril qu'il avait couru, le chevalier de Vaudray reporta de nouveau sa pensée vers cet homme courageux qui avait sauvé le détachement et s'était exposé à la mort pour porter secours à un inconnu. Roger passa la main sur son front soucieux, comme pour chasser une préoccupation qui s'acharnait en lui. Et s'adressant au chef des montagnards, « Nous partirons quand vous voudrez, monsieur, » dit-il. Le commandant des boys passa, accompagné de Roger, devant le front des montagnards rangés en ligne et à la droite desquels le détachement de Français avait pris la place d'honneur. « Mes amis, » prononça le chef d'une voix forte, « nous allons à la recherche de l'armée anglaise. Vous savez par conséquent ce que vous avez à faire. » Avant et après que nous aurons rencontré les habits rouges. En avant ! En avant ! Répétèrent tous les montagnards. Une formidable clameur s'éleva, produite par les cris entremêlés de « Vive la France ! Vive l'indépendance américaine !» Qu'était devenu Rabusson, après que Gaspard l'eut vu disparaître dans les herbes, à la poursuite des Sioux ? Le trappeur, on s'en souvient, avait épuisé ses munitions en tiraillant contre les Indiens qui attaquaient le détachement dont Gaspard avait pris le commandement. C'est à quoi réfléchissait l'ancien sergent pendant qu'il marchait activement dans la prairie. Et il lui était venu à l'idée que le seul moyen qui s'offrait à lui de renouveler ses munitions serait d'aller surprendre les Sioux qui servaient d'éclaireurs aux Anglais, ces Indiens étant tous armés de fusils. Aussi, Rabusson, laissant les montagnards poursuivre les vaincus, s'engagea-t-il dans la direction où il supposait que devait se trouver un des corps de l'armée anglaise. Il avait, quelques jours auparavant, acquis lui aussi la certitude que les habits rouges ne tarderaient pas à aborder les défilés pour installer des canons qui en battraient l'entrée et commanderaient en même temps le versant de la montagne verte s'il prenait fantaisie au boy de passer par là. C'est même en prévision de ce mouvement qu'effectuerait l'armée anglaise que le terrible trappeur s'était rapproché de la poudrière du souterrain. Il espérait trouver bientôt l'occasion de faire danser aux habits rouges une fameuse gigue, comme il disait, en faisant allusion aux foudroyants effets qu'il attendait de l'explosion de la mine. On sait par suite de quels événements Rabusson avait dû utiliser sa poudrière pour d'autres que les Anglais. Mais il n'y avait pas eu à hésiter du moment qu'il s'était agi de sauver des compatriotes. Le sergent savait donc par où les Anglais, prévenus par les Sioux mis en déroute, arriverait à marche forcée afin de barrer la route aux montagnards. Il se jeta donc du côté de la forêt qui s'étendait à gauche de la savane. Il était sûr de trouver dans ces bois un endroit où s'embusquer pour attendre le passage des éclaireurs Sioux. En outre, il voulait être à proximité des eaux du torrent, où il avait, pendant les longues années de chasse, trouvé une grotte naturelle dont il s'était fait une habitation. Avec ses habitudes de trappeur nomade, Rabusson, changeant continuellement de pays, se construisait ainsi des gîtes dans tous les endroits qui lui paraissaient offrir des conditions de sécurité. Rabusson était rassuré du reste sur le sort de ses compatriotes. Quand il avait vu les montagnards arriver, il s'était dit qu'il pouvait désormais se fier à eux du soin de tenir en échec les Sioux, d'une part, tandis que d'autre part, ils sauraient manœuvrer en vue du plan que leur avaient fait parvenir les généraux Washington et Lafayette. Et de fait, sans se préoccuper de ceux qu'il avait si puissamment contribué à sauver, le trappeur se mit en campagne pour son propre compte. « Je les retrouverai bien toujours quand je pourrai leur être utile », avait-il pensé. La direction qu'il avait choisie conduisait, avons-nous dit, à la forêt. Rabusson ne se dissimulait point qu'une partie des fuyards débandés avait tiré de ce côté-là pour chercher un abri dans l'inextricable fourré de mâpons dont les branches basses se perdaient dans des labyrinthes de broussailles. Il dut donc prendre des précautions pour pénétrer sous bois sans éveiller l'attention des Indiens qui pouvaient s'y trouver déjà. Bien lui en prit, car à peine arrivait-il à la lisière qu'il reconnut qu'une partie de la forêt était occupée par les Sioux. Ceux-ci étaient demeurés en réserve pendant l'action, attendant le moment propice pour couper la retraite aux montagnards lorsque les Boys vaincus eussent pris la fuite par la savane. Le sort du combat ayant été défavorable au leur, les Sioux formant la réserve avaient jugé prudent de garder leur position dans la forêt. Ils se livraient, au moment où Rabusson les aperçut, aux douceurs d'un festin dont un daim boucané faisait les frais. Le chef tenait le milieu du cercle formé par les guerriers de marque, derrière lesquels se pressaient, un peu confusément, les jeunes Sioux, fort turbulents et qui attendaient leur part du repas. Tout à coup, Rabusson, qui, pour mieux voir, avait rampé jusqu'aux broussailles, à l'abri desquelles il lui était facile de saisir tous les détails de la scène, étouffa une exclamation de surprise. Au milieu du cercle, un groupe venait de faire son apparition, se dirigeant devant le chef. C'étaient deux guerriers, tatoués comme le sont les descendants des grands chefs, lesquels conduisaient une femme en la tenant chacun par un bras. La prisonnière, car Rabusson ne put douter un seul instant que c'en fût une, portait le costume des Européennes. Ses longs cheveux flottaient dénoués sur ses épaules. Elle marchait hardiment, comme si, connaissant le sort qu'on lui réservait, elle l'acceptait bravement. En reconnaissant en cette victime une compatriote qui allait fatalement devenir l'esclave du chef Sioux, Rabusson éprouva une violente émotion. La première impression fut un sentiment de colère. Sa première pensée, le désir ardent de délivrer la malheureuse femme. S'il n'eût écouté que son courage, il se fût élancé au milieu des Indiens, eût sabré le chef et se fût mis en devoir d'enlever la prisonnière, profitant pour accomplir cet exploit de la stupeur qui ne manquerait pas de s'emparer de tous les témoins de cette scène. Mais c'était, pensait-il, commettre une imprudence, car revenus de leur stupéfaction, les Indiens auraient pu facilement se mettre à sa poursuite et le rattraper bientôt. C'eût été dans ce cas de sa part un dévouement absolument inutile. Mieux valait, réfléchit le trappeur, attendre une occasion favorable pour tenter la délivrance de la femme blanche. Jusque-là, Rabusson n'avait pu apercevoir le visage de la prisonnière qui lui tournait le dos. Mais quand celle-ci fut arrivée devant le chef, elle fit un brusque mouvement pour se débarrasser de l'étreinte des deux guerriers qui s'étaient constitués ses gardiens. Dans la courte lutte qui suivit, la jeune femme avait fait demi-tour et se montra de face. Cette fois, Rabusson dut porter vivement la main à sa gorge pour étouffer le cri prêt à s'en échapper. Il venait de reconnaître la prisonnière. C'était la femme qui avait fait battre son cœur, dont il était devenu amoureux à ce point que, repoussé dans ses espérances d'unir sa vie à la sienne, il avait pris la résolution de devenir le trappeur nomade que l'on sait. C'était la femme du lieutenant Douvel. C'était Marianne. À ce moment où le hasard lui faisait retrouver celle pour qui il eût donné sa vie, celle qu'il ne croyait jamais plus revoir, dont il avait gardé en lui le souvenir toujours vivace, Rabusson se sentit trembler comme un enfant. Après la colère qui avait fait bouillonner son sang, des larmes arrivaient à ses yeux. L'attendrissement gagnait son âme. Tout ce qu'il avait souffert depuis qu'il s'était séparé de l'objet de son amour, toutes les nuits d'insomnie pendant lesquelles la rage l'avait mordu au cœur à la pensée qu'un autre était l'heureux époux de cette femme, qu'un autre la pressait dans ses bras, la couvrait de ses baisers. Toutes ces souffrances de chaque jour s'alimentant sans cesse aux souvenirs douloureux. Tout cela s'évanouit comme par enchantement. Il ne resta dans l'esprit du malheureux trappeur qu'un irrésistible désir de délivrer la prisonnière, de la garder auprès de lui, de devenir à la fois son maître et son esclave. Il lui consacrerait sa vie, l'adorant comme on adore une sainte, et à force de tendresse, à force de lui prodiguer des témoignages de son amour, peut-être arriverait-il à ce résultat qu'il avait tant espéré autrefois, se faire aimer. Puis, subitement, le chaos se fit dans sa pensée. Comment cette femme se trouvait-elle dans ce pays si éloigné de la Louisiane? Par quelle série de circonstances était-elle tombée au pouvoir des Indiens? Qu'était devenu le lieutenant Douvel? Et son imagination, galopant dans le champ des suppositions, Rabusson se demandait si la femme qu'il retrouvait n'était pas veuve maintenant. Alors, c'est à lui qu'incomberait de faire la vie heureuse à celle que la Providence lui rendait. Ce serait pour lui la réalisation de ses vœux les plus chers, la compensation à toutes les souffrances éprouvées de ce long martyr de son cœur, tout plein de la personne aimée. Et ce pauvre diable de trappeur, à l'âge où d'ordinaire les passions s'éteignent pour faire place à la vie contemplative, retrouvait dans son cœur toutes les illusions du jeune homme. Son âme tressaillait comme si elle eût été envahie par un premier amour. Cependant, il lui fallait prendre une décision, et Rabusson sentit se réveiller en lui toute son énergie un instant assoupie sous les caresses du souvenir. Au surplus, dans la clairière, la scène avait pris un caractère tout particulier. Marianne, ayant réussi à s'arracher des mains qui la retenaient, s'était avancée fièrement jusque devant le chef. Et là, la tête haute, les yeux pleins de larmes, elle s'était écriée comme si l'Indien eût pu comprendre. « Lâche ! Lâche tous ces hommes qui s'attaquent à une femme sans défense ! Lâche aussi le chef qui leur commande ! Et maintenant que vous m'avez entraîné ici, que j'ai dû subir toutes les avanies, toutes les brutalités, que prétendez-vous faire de moi, vous qui êtes le chef, le maître suprême ?» Elle avait prononcé ces mots avec une expression de souverain dédain pour le chef. Celui-ci eut un sourire qui découvrit ses dents aiguisées et pointues comme des dents de fauve. Puis, levant la main, il fit signe à la prisonnière de venir à lui. Marianne se redressa et, apostrophant de nouveau l'Indien, « Qu'avez-vous fait de mon mari ? » demanda-t-elle dans un cri de désespoir. « Si vous l'avez tué, je ne veux pas lui survivre. S'il vit, je veux qu'on nous réunisse. Nous avons été unis pour la vie. Il faut que nous le soyons dans la mort. » Rabusson avait entendu. Tout son sang lui afflua vers le cœur. Le lieutenant de Nouvelle était donc lui aussi prisonnier des Sioux. Celle qu'il espérait avoir retrouvée veuve demandait comme une grâce, comme un bonheur suprême de mourir avec son mari. Le trappeur se sentait devenir fou. Des idées de haine et de vengeance l'envahissaient à présent. Cet homme, que les Sioux avaient capturé, il le lui fallait. C'était l'ennemi qui lui revenait de droit et qu'il voulait combattre seul à seul dans un duel acharné. À ce moment, la femme aimée se présentait à lui comme une proie qui ne devait pas lui échapper. Oui, il la délivrerait. Il l'enlèverait aux Sioux. Dût-il pour cela suivre la troupe pas à pas, afin de profiter du moment favorable? C'était une guerre de ruses qu'il allait entreprendre désormais contre des adversaires également au fait des ruses les plus subtiles. Il puiserait sa force et son courage à la fois dans l'immensité de son amour et dans l'immensité de sa haine. Et tandis que tout à l'heure encore il était sur le point de bondir comme un léopard pour venir tomber au beau milieu des Sioux, maintenant il se commandait à lui-même d'avoir de la patience. Ne savait-il pas du reste que le chef ne ferait pas périr sa prisonnière? Ne connaissait-il pas assez les mœurs de ces Indiens pour ne pas deviner le sort qu'on réservait à la femme au visage pâle, dont la beauté devait faire tressaillir l'âme du chef et réveiller ses passions? Non, Rabusson ne voulait plus mourir avec la consolation de succomber à côté de la femme aimée et de s'endormir avec elle du sommeil éternel. Il la voulait vivante, cette femme, et pour la conquérir sur ses nouveaux maîtres, il se sentait de taille à affronter les plus grands dangers, à accomplir les plus grands exploits. Sa résolution fut prise aussitôt. Il n'avait plus à demeurer le spectateur des scènes qui allaient se succéder dans la clairière. Le plus important était pour lui de se procurer des munitions. Pour cela, il devait manœuvrer dans le but de surprendre les Sioux préposés à la garde de la bande. Il savait par expérience que les Indiens se faisaient garder et que dans le cas présent, un certain nombre de sentinelles devaient être disséminées tout le long de la lisière du bois. Ces hommes étaient généralement munis de fusils donnés par les Anglais. Rabusson se retira donc lentement. Il se glissa dans les hautes herbes qui avoisinaient le bois et rampa jusqu'à ce qu'il eût aperçu une des sentinelles qu'il cherchait. Tout à coup, un Sioux se montra entre deux troncs d'arbres, immobile comme une statue. Ses regards parcouraient la prairie immense qui s'étendait à perte de vue. Et il semblait prêter l'oreille au bruit vague qui s'élevait du milieu des herbes. Rabusson s'arrêta. Il importait qu'il ne fît plus un mouvement sans être certain qu'il parviendrait à mettre en défaut l'attention de l'Indien. Il s'assura que son couteau de chasse était à portée de sa main et pouvait être facilement tiré de sa gaine de corne. Puis il attendit, espérant que le Sioux changerait de position, voire même qu'il se déplacerait pour faire les 100 pas en avant dans la forêt. Alors, il s'agirait de le suivre en rampant, de bondir sur lui et de lui plonger le couteau dans le cœur avant qu'il ait pu pousser un cri, exhaler un gémissement. Rabusson avait retrouvé tout son sang-froid. Il comptait les secondes par les battements de son cœur. Le Sioux faisait-il le moindre mouvement, aussitôt le trappeur s'apprêtait à ramper. Enfin, après une longue attente, il lui sembla que l'instant suprême approchait. En effet, l'Indien s'était avancé de quelques pas dans la direction où se trouvait Rabusson. Celui-ci le vit s'assurer que le bassinet de son fusil jouait bien. Un frisson parcourut les veines du trappeur. Le Sioux s'était remis en marche et avançait toujours avec précaution, comme un chasseur qui veut surprendre le gibier. Il n'était plus qu'à quelques pas. Tout d'un coup, il s'arrêta net, comme pour retourner au poste qu'il venait de quitter. Rabusson, désappointé, faillit se démasquer pour courir sus à l'adversaire qui allait se dérober. Mais le Sioux, changeant d'avis, continua d'avancer. Cette fois, le trappeur se tint ramassé sur lui-même, tout prêt à s'élancer. L'Indien arrivait à sa portée. Rabusson dégaina son couteau. Et d'un bond prodigieux, il vint tomber sur le Sioux, le couteau en avant, dans la direction de la poitrine. La lame pénétra jusqu'au manche. Un flot de sang jaillit. Atteint en plein cœur, le Sioux s'affaissa en exhalant un faible soupir. Rabusson lui avait vivement appuyé la main sur la bouche pour provoquer l'asphyxie au cas où une agonie se produirait. Mais la mort avait été foudroyante. Le corps n'eut pas le plus petit tressaillement. Rabusson enleva la corne à poudre de dessus le cadavre et abandonna le fusil qui ne pouvait lui être d'aucune utilité pour le moment. Et sans perdre une minute, il se mit à charger sa carabine. Maintenant, il se sentait fort pour l'attaque qu'il méditait. Ce premier coup d'audace avait réussi merveilleusement. Il se proposa de le renouveler en allant surprendre successivement les sentinelles qui gardait la forêt du côté de la clairière. Il procédait du reste à la façon même des Indiens, fort habile à surprendre l'ennemi. Déjà, il avait mis à mort 4 Sioux, dans les mêmes conditions, quand un grand bruit de voix s'éleva dans la forêt, provenant de l'endroit même où se trouvaient le chef et ses guerriers. Le tumulte était motivé par l'arrivée d'un coureur qui apportait des nouvelles graves. Rabusson voulut profiter du désarroi qui régnait à ce moment parmi les Indiens. Il ne pouvait plus procéder maintenant que par des coups d'audace répétés. Une inspiration lui vint. Il rampa jusqu'auprès de la clairière et, épaulant sa carabine, il visa le chef Sioux. Le coup partit. Le chef fut touché en pleine poitrine, fit un bond sur lui-même et retomba la face en avant. Prompt à s'élancer, le trappeur arriva en quelques enjambées au milieu des Indiens terrifiés. Il saisit Marianne par la taille et, l'enlevant comme il eût fait d'un enfant, il l'emporta dans l'épaisseur de la forêt. Marianne, surprise, n'avait pu se défendre. Du reste, cet homme devenait pour elle un sauveur, qu'elle pourrait, pensait-elle, intéresser plus tard à son sort. Elle garda donc le silence pendant tout le temps que dura cette marche précipitée dans le bois. Rabusson connaissait parfaitement tous les sentiers et toutes les issues. Et comme saisis d'une sainte terreur, les Sioux s'étaient précipités sur le corps inanimé de leur chef, le trappeur put, sans être poursuivi, gagner l'endroit de la forêt où se trouvait la grotte qui, quand il se trouvait dans ce pays, lui servait d'habitation. Pour y arriver, il fallait suivre le cours du torrent jusqu'à un groupe de rochers superposés avec des hardiesses extraordinaires d'équilibre. L'ouverture ne s'apercevait que lorsqu'on était parvenu à se glisser entre deux blocs encaissés sous d'autres plus énormes et surplombants. Rabusson était maintenant en sûreté contre les recherches auxquelles pourraient se décider plus tard les Indiens dans le but de s'emparer du meurtrier de leur chef. Une fois qu'il eut déposé Marianne dans la grotte, Il se tint immobile, incliné devant la jeune femme et accablé par l'émotion. Marianne ne reconnut pas, sous l'étrange travestissement dont il s'était affublé, l'ancien sergent qu'elle avait vu au pénitencier de la Louisiane. Du reste, elle n'avait eu que rarement l'occasion de se trouver en sa présence, voulant éviter des conversations que l'amoureux sergent cherchait à entamer avec elle. Aussi, croyant parler à un inconnu, la jeune femme prononça-t-elle d'une voix que l'émotion rendait balbutiante. « J'ignore qui vous êtes. Je ne sais pas davantage dans quel but vous m'avez amené ici. Ce que je sais, c'est que vous m'avez délivré des mains de ceux qui s'étaient constitués mes bourreaux, et que grâce à vous, je ne subirai pas les outrages qu'on me réservait. Aussi, monsieur, laissez-moi vous remercier et vous dire que Dieu m'a prise en pitié, puisqu'il vous a inspiré la pensée de venir à mon secours, puisqu'il a permis que vous puissiez accomplir un acte de courage et d'audace dont je me rends bien compte maintenant que je retrouve mes esprits. » Rabusson avait écouté cette voix dont les intonations émues lui arrivaient délicieusement aux oreilles et faisaient tressaillir son âme. Elle ne l'avait pas reconnue, et à présent qu'il était en présence de l'être tant aimé, il se trouvait ridicule sous l'accoutrement qu'il s'était fabriqué. « Ah, dit-il, vous ne me reconnaissez pas, je le comprends. Et comment pourriez-vous me reconnaître, déguisé comme je le suis ?» Marianne eut un soubresaut. Cette voix, elle croyait se rappeler l'avoir entendue déjà autrefois. Mais se remettant aussitôt, « Vous êtes français ? » demanda-t-elle. « Oui, répondit simplement Rabusson. Et ses yeux s'attachèrent sur Marianne avec une expression si singulière que la jeune femme ne put s'empêcher de tressaillir. Tout à coup, Rabusson, ne pouvant plus maîtriser l'émotion qui l'étouffait, s'écria en tendant les mains vers la jeune femme. « Je vous reconnais bien, moi. Vous êtes Henriette Gérard. » À ce nom qui éveillait en elle de si douloureux souvenirs, Marianne plongea son regard sur le visage de son interlocuteur, et elle murmura. « Où m'avez-vous vu? Comment connaissez-vous Henriette Gérard ?»« Ah, vous voulez le savoir. Eh bien, regardez-moi bien. Vous m'avez vu d'abord sur le brick le Glorieux, et c'est là, sur le pont de ce navire en feu. C'est au milieu de vos compagnes affolées que je me suis senti pris d'amour, oui, d'amour pour vous. Vous m'avez vu à la Louisiane, au pénitencier, quand on allait marier les prisonnières, et que moi, qui vous aimais comme un fou, j'espérais devenir votre mari. Vous m'avez vu plus tard, le jour où vous vous embarquiez, et que je pensais que je serais séparée de vous pour toujours. Ah, vous ne me reconnaissez pas, parce que le sergent Rabusson est devenu un trappeur courant les bois comme un sauvage, parcourant les plaines, seul, toujours seul avec votre souvenir qui ne le quittait jamais, qui le torturait et qui l'aimait toujours, toujours cependant. Oui, regardez-moi bien, Henriette Gérard, je suis ce pauvre diable de sergent Rabusson dont vous avez repoussé la demande et dont le désespoir a fait un misanthrope condamné à vivre dans l'isolement, jusqu'au jour où son cadavre servira de nourriture aux oiseaux de proie des forêts. » Marianne demeura interdite. Le trappeur continua en s'animant. « C'est vous qui l'aimez fièrement, ce pauvre diable de Rabusson, et il avait rêvé de faire de vous sa compagne pour l'existence entière. Il ne se moquait pas mal que vous ayez été ce que vous aviez dû être, pour qu'on vous envoie au pénitencier. Il voulait de vous pour en faire une honnête femme. Et il y serait arrivé, vrai, comme il existe un Dieu, parce qu'il vous adorait, et qu'il aurait su vous ramener au bien. Ce qui était passé aurait été oublié. C'était une vie nouvelle qu'il allait vous donner. Et vous vous y seriez faite, parce que... » Et succombant à l'émotion, le trappeur s'interrompit pour essuyer du revers de sa main deux grosses larmes qui faisaient miroiter ses prunelles. Puis, subitement, son visage prit une expression dure, presque féroce. Ses yeux s'injectèrent, un rictus contracta ses lèvres. Très émotionnée et douloureusement impressionnée par les paroles qu'elle venait d'entendre prononcer, Marianne ne s'aperçut pas du changement qui s'était opéré dans la physionomie de Rabusson. Loin de s'effrayer à cette manifestation de l'amour insensé qu'elle avait involontairement fait naître dans le cœur du malheureux homme, elle éprouvait un sentiment de pitié pour cet infortuné. Aussi voulut-elle apporter par quelques paroles de reconnaissance un soulagement à l'immense déception qui avait atteint en plein cœur le prétendant évincé. « Monsieur, dit-elle d'une voix douce, ce que j'apprends de votre sympathie pour moi rend plus ardent encore, s'il se peut, le sentiment de reconnaissance que m'inspire votre courageuse intervention dans la terrible aventure dont je suis la victime. Et puisque la destinée avait décidé de notre sort à tous deux, voulez-vous me considérer à l'avenir comme une sœur dévouée dont l'affection et la sollicitude ne vous feront jamais défaut ? Rabusson ne répondant pas, Marianne continua avec des intonations de plus en plus persuasives et émues. « Celui qui est devenu mon mari est le plus digne et le plus généreux des hommes. Lui aussi a voulu faire de la prisonnière que la société repoussait de son sein une femme honnête, rivée à ses devoirs d'épouse et digne désormais de ce titre. Aussi, monsieur, si la Providence permet que le lieutenant Douvel puisse, comme moi, échapper aux mains des misérables qui le retiennent prisonnier, oh, vous pouvez être persuadé qu'il joindra sa reconnaissance à la mienne et que tous deux nous serons pour vous les amis que l'on peut mettre à l'épreuve en toutes circonstances. » Cet éloge de son rival atteignit l'infortuné Rabusson en plein cœur. Sa jalousie éclata violente et son visage prit une expression haineuse. « Ah, il est prisonnier des Sioux, le lieutenant Douvel !» s'écria-t-il. « Oui, mais à nous deux, nous le délivrerons. Moi ?» Rabusson avait prononcé ce mot dans un cri. Son visage s'était animé et tout son corps paraissait agité d'un mouvement convulsif. Marianne se trompa sur le sens de la brève réplique et elle répondit avec un accent de profonde gratitude. « Je vous remercie, monsieur. Venant de votre part, la tentative que vous allez faire a un prix bien plus grand à mes yeux. Encore une fois, monsieur, merci, merci !» Et la jeune femme, dont le sein haletait, tendit les deux mains au trappeur. Qu'allait-il se passer entre ces deux êtres que le hasard rapprochait? Soudain, d'une extrémité de la forêt, arriva le bruit d'une formidable décharge de mousqueterie auquel succédait un feu à volonté, comme si des tirailleurs nombreux se fussent répandus dans la plaine pour enserrer la forêt d'une ceinture de feu. Rabusson et Marianne, frappés de stupeur, étaient demeurés immobiles pendant quelques secondes. Puis le trappeur, se précipitant vers l'entrée de la grotte, après avoir saisi sa carabine, se mit en devoir de défendre la femme dont il s'était juré d'être le protecteur. La perspective d'un danger nouveau enflammant son imagination, l'ancien sergent se préparait à une lutte à outrance, quel que pût être l'ennemi qui se présenterait.